au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Bonjour, 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 bonjour. Ben oui, je suis encore là aujourd'hui. Je remplace Hélène qui va être de retour mardi prochain. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Ça arrive des fois qu'on doive s'absenter. Alors, je vais tout de suite aller à la météo parce que ben c'est encore une journée sorte automne-hiver pour l'est du pays, notamment les régions de l'est du Québec où on pourrait même avoir du gel cette nuit. Mais bon, c'est nuageux encore avec quelques possibilités d'averses partout. On est autour de 13 et puis 9 degrés plus à l'est et au nord. Ceux de l'Ontario, généralement nuageux avec des possibilités d'averses comme ici. On est à 12 degrés. Même chose dans l'est de l'Ontario. Dans le nord de la province de l'Ontario, il pourrait même avoir de la neige. Et dans les provinces atlantiques, c'est de la pluie intermittente partout, entre 9 et 12 degrés, alors que Saint-Jean-de-Terre-Neuve profite d'une journée partiellement nuageuse avec une température de 19 degrés. C'est le soleil partout dans les provinces des prairies avec des températures de 11 à 19. Et devinez quoi? Aujourd'hui, il pleut sur la côte ouest. Donc, on a dit qu'il n'y avait pas de pluie depuis longtemps. Alors, une belle journée aujourd'hui en ce, comme je disais tout à l'heure, 7 mai. Hein, 7 mai 2026, 127e journée de l'année. Bien, allons-y. D'abord, on a nos collaborateurs, collaboratrices, Yvan Deslauriers et Monique Kerouac. Bonjour tous les deux.
Bonjour, Denis Martin.
Bien, comme tu es la première... Denis. Bonjour, Yvan. Bonjour. Alors, comme tu es la première à avoir parlé, Monique, de quoi vas-tu nous parler à ta chronique aujourd'hui?
Bien, je vais vous parler des yeux. Ah. Parce que, bon, le vieillissement, on le sait, ça peut affecter notre qualité de vie, notre corps, mais aussi nos yeux. Puis la perte de la vision, ben, ça peut entraîner une diminution de l'autonomie de la personne. Mmh. Et ça, semble-t-il que ça fait partie des plus grandes craintes des personnes d'un certain âge. Ah. Mais ce que nous dit Langis Michaud, qui est professeur de l'école d'optométrie de l'Université de Montréal, c'est qu'il y a des moyens de se prémunir des effets néfastes de vieillissement et de notre santé oculaire. Alors, je vais vous parler des différents aspects qui peuvent atteindre notre maladie, peut-être, peut-on considérer, qui peuvent atteindre notre vision et comment on peut se prémunir.
Et c'est pas en mangeant des carottes, parce que ça, c'est un mythe.
Exactement.
Oui, oui, oui. Mais en fait, moi, j'ai toujours cru que c'était pas mon vieillissement, c'était le fait qu'on est vraiment de plus en plus petit. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Yvan Deslauriers.
Moi, je vous raconte une histoire qui est triste, vraiment. J'avais parlé de cette personne-là au moment où il avait couru son marathon l'automne dernier. C'est un monsieur qui était en situation d'itinérance et qui avait réussi avec beaucoup de soutien à courir un marathon avec quand même beaucoup de panache. Et il se préparait pour un prochain demi-marathon et sa vie s'est arrêtée.
Et puis moi, de mon côté, je vais vous parler de la mobilisation à l'école Saint-Enfant-Jésus, ici à Montréal, qui demande au Centre de service scolaire de revenir sa décision d'abolir le poste de sa directrice adjointe. Une école avec un mandat spécial pour les personnes ou les élèves avec des déficiences visuelles ou des problèmes auditifs. Et puis, on va aussi parler un peu plus tard de psychologie sociale avec Roxane de Sablonnière, les relations parasociales et l'intelligence artificielle. Et on termine avec une entrevue pour parler de Bonjour Chien. C'est un nouveau parcours dans le quartier des spectacles à Montréal. Et je vous rappelle donc aujourd'hui, dans cette 127e journée de l'année, ben, imaginez-vous qu'en 1945, aujourd'hui, c'était la fin de la guerre avec la signature de la capitulation de l'Allemagne nazie. Et en 2000, c'est une journée où entrait comme président Vladimir Poutine en Russie. Bon, je ne sais pas si c'était une bonne nouvelle à suivre. C'est la journée international de l'asthme. Est-ce que tu tousses beaucoup, toi, Mathieu, en régie?
Oui.
Oui, oui. Est-ce que tu souffres d'asthme?
Non.
Non, moi, oui. C'est une chose qu'on trouve un peu... C'est un peu fatigant ce temps-ci de l'année avec les allergènes et tout. Puis oui, je voulais vous en parler. J'ai une mauvaise nouvelle. Vous avez peut-être entendu, vous avez peut-être vu. Ben oui, le Canadien a perdu contre Buffalo. Ben oui. Allez-y.
On veut gagner, on
ben oui, Locolocas, allez, 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 Montréal. Ben là, c'est pas une bonne nouvelle qui commence ce rappel des grandes lignes de l'actualité. Ben oui, dans tous les journaux ce matin, à Buffalo, les Sabres ont pris les devants dans la série du deuxième tour en signant une victoire de 4-2 face aux Canadiens de Montréal lors de ce match, donc le match numéro 1. Il y a une chance de se reprendre. Alors, la formation états-unienne a profité d'un départ canon de Josh Doan, et Ryan McLeod, qui ont chacun récolté un but et une passe. Malgré une forte poussée des Montréalais, qui ont dominé 28-16 au chapitre des tirs au but, le gardien Alex Lyon a multiplié les arrêts clés pour préserver l'avance des siens. Nick Suzuki et Kirby Duck ont assuré la réplique pour le tricolore, mais l'indiscipline en début de match a coûté cher à la troupe montréalaise. Les deux équipes se retrouveront donc au Quebec Center, donc c'est à Buffalo évidemment, dès vendredi soir pour le deuxième affrontement de cette série 4-7. Dans le Devoir ce matin, la première ministre québécoise, Christine Fréchette, amorce un sprint législatif de 5 semaines avec l'objectif de faire adopter le plus grand nombre de projets de loi possibles d'ici la fin de la session prévue le 12 juin. Parmi les priorités figure l'utilisation de la clause de dérogation pour assurer le maintien de la loi 96 qui veut protéger le français. Le gouvernement prévoit également le dépôt imminent de la loi Gabi-Renault visant à protéger les victimes de violences conjugales. Malgré cet échéancier serré, certains nouveaux projets de loi pourraient devoir attendre le mois de juin pour être déposés, alors que le gouvernement appelle les oppositions à collaborer pour accélérer les travaux parlementaires. Dans la presse plus, la course pour l'obtention du siège social de la future Banque de la Défense, de la Sécurité et de la Résilience s'intensifie entre les deux plus grandes métropoles au pays. Alors que le gouvernement de Christine Fréchette mise sur le fait français, l'expertise en innovation, pour mousser la candidature de Montréal, Toronto réplique avec une stratégie offensive. La ville reine tente de convaincre le gouvernement fédéral en s'appuyant sur son statut de capitale financière et sur la mobilisation de son secteur bancaire. Et surtout, elle évoque la possibilité de la tenue d'un référendum au Québec advenant l'élection du Parti québécois. L'enjeu est de taille pour les deux villes, puisque l'établissement de cette institution de l'OTAN au Canada pourrait générer entre 300 et 3 000 emplois, entre 500 et 3 000 emplois, oui, spécialisés dès son entrée en fonction prévue d'ici 2027. Dans le Devoir, le Canada se prépare à ajuster sa stratégie économique pour répondre aux transformations rapides de l'ordre mondial. C'est ce qui ressort d'une conférence internationale de 3 jours sur la politique économique extérieure du Canada qui a eu lieu à l'Université Laval. Rassemblée autour du thème du choc à la transformation, 250 participants issus des milieux universitaires, gouvernementaux et économiques ont entre autres discuté de guerre commerciale, de tensions géopolitiques et de sécurité des chaînes d'approvisionnement, mais aussi de la transition écologique et numérique. On y a appris qu'après avoir subi les chocs de la pandémie et des tensions commerciales internationales, le Canada doit désormais miser sur une autonomie stratégique accrue. Le gouvernement fédéral et les partenaires provinciaux, dont le Québec, orientent leurs efforts vers la sécurisation de chaînes d'approvisionnement, particulièrement dans les secteurs des minéraux critiques et des technologies vertes. L'objectif est de réduire la dépendance envers les marchés volatiles tout en transformant les liens commerciaux avec les alliés de l'OTAN et les partenaires états-uniens. Les experts économiques prévoient toutefois que cette transition vers une économie plus résiliente nécessitera des investissements massifs en infrastructures et une main-d'œuvre qualifiée pour maintenir la compétitivité du pays face à la montée de du protectionnisme global. L'école primaire Saint-Enfant-Jésus à Montréal, reconnue pour ses mandats régionaux uniques en déficience auditive et visuelle, fait face à une décision administrative majeure, l'abolition du poste de sa directrice adjointe par le Centre des services scolaires de Montréal. Et pour nous expliquer pourquoi cette décision inquiète autant la communauté, je reçois Nicolas-Jean Boisvert, président du Conseil d'établissement de l'école. Bonjour, M. Boisvert.
Oui, bonjour, M. Chabot. Vous m'entendez bien? Oui.
Très, très bien. Alors, le CSSDM, donc, justifie cette abolition par le nombre d'élèves inscrits à l'école, mais vous affirmez que ce calcul est trompeur. Pourquoi?
Bien, il est trompeur parce qu'effectivement, on est une petite école, on a un mandat régulier, puis on n'a pas le nombre exact qui mériterait une direction adjointe, mais... il semble oublier ou en déconne prendre peu en considération le fait qu'on a un double mandat. On a un mandat qui est dédié directement là, aux élèves qui ont une déficience auditive puis visuelle. Ça, c'est pas juste pour notre quartier, là, on s'entend, là, c'est pour l'île de Montréal au complet. Imaginez, il y a des tout petits là, qui se lèvent tôt le matin, qui sont mis dans un petit autobus puis qui font une heure de route là, pour recevoir une éducation qui réponde à leurs besoins. C'est pas rien. Et on dirait que malgré leur algorithme qui disent qu'ils ajustent, ça semble pas rentrer en considération. Et on pourrait comprendre que, d'accord, la direction pourrait se passer d'une direction adjointe si on était une école régulière. Je veux dire, il y aurait même pas de combat en ce moment. Mais on va affecter directement l'encadrement des élèves.
Mais justement, c'est vraiment un problème de perdre ce poste-là?
Bien, le problème, c'est parce qu'il faut comprendre que la direction adjointe, à l'aide l'équipe de professionnels, là, on parle, on a évidemment là, excusez, j'en perds mes mots.
Le personnel, vous avez des spécialistes qu'on retrouve dans l'école.
Exactement. Oui, merci. Exactement. On a des audiologistes, on a des orthophonistes, des psychoéducateurs. Il y a aussi un service spécialisé en braille qui, je crois, va dans d'autres écoles parce qu'on s'occupe aussi d'élèves qui vont dans d'autres écoles. Mais ça, apparemment, ces élèves ne comptent pas pour nous. Ça compte pour les autres écoles, d'accord, parce qu'ils sont là en temps plein. Mais nous, ça fait quand même... L'équipe doit gérer ça. La direction doit gérer ça. Et une école normale, je dirais, peut-être quoi, 20, 25 employés à gérer pour le nombre d'élèves que nous, on aurait. Mais nous, c'est 80 employés là, qu'il faut soutenir.
Presque quatre fois le nombre.
Honnêtement, je veux dire, tout ce que je dis, là, il faut évidemment que ça soit toujours vérifié. Mm-hmm. Je suis un peu nerveux, mes chiffres se confondent. Je suis peut-être pas tout à fait exact, mais c'est vraiment c'est nettement supérieur. Là. Je ne sais pas si ils expliquent des écoles qui n'ont que 20 employés, mais au final, là, ça fait plus que 80 employés. C'est beaucoup. Et c'est demandé un travail énorme pour parce que il y a ceux du DAU, des distances auditives, il y a le visuel qu'on aide à l'extérieur, mais on est aussi une école régulière. Là. Il y a les élèves du régulier qu'il faut aussi évidemment pas oublier.
Le service soit moins bon. Là. On tient une espèce de on craint une dégradation du service avec la perte de cette direction-là.
Bien, tout à fait. Et c'est écoutez, le personnel, je les connais là, pour la plupart. Ça fait 7 ans que je suis à l'école. Je les connais. Là, ils font un travail magistral. On leur donne peu d'outils. Ben, on leur donne les outils que le gouvernement veut bien leur donner. Ils font un travail hors pair, selon moi, pour donner la meilleure éducation possible. Mais oui, ça prend pas une personne dans notre cas. Ça va mettre l'équilibre en péril, c'est certain. Le soutien au personnel, juste le climat scolaire. Il y a un bel effort à notre école pour intégrer tout le monde, pour que tout le monde s'entende bien. La communication avec les familles, ça va être aussi affecté. C'est important d'être au courant de ce qui se passe. On a des élèves là, qui sont plus vulnérables que d'autres. Ça a besoin d'une attention particulière. En ce moment, avec une double équipe, je crois qu'on donne un excellent travail pour pour s'assurer que tout le monde ait la meilleure éducation possible.
On n'a pas beaucoup de temps. J'aurais quand même rappelé que la direction adjointe, là, ça existe depuis 40 ans, puis le CSSDM avait déjà conclu après une analyse passée que c'est indispensable. Alors là, maintenant qu'elle change d'idée, vous allez faire quoi, vous, pour quelle est votre mobilisation là, pour assurer le maintien de ce poste si possible?
Moi, je le fais en tant que parents, parce que ça m'implique, ça va me chercher. C'est, l'éducation, c'est mon Dieu, c'est la base d'une société.
Et vous avez une pétition en ligne, c'est ça? Oui.
Mais c'est ça, on a parti une pétition en ligne. On a déjà recueilli plus de 800 signatures. Ça fait seulement 8 jours et ça va bien. Je ne sais pas si vous pouvez fournir l'information sur votre site. Sinon, les auditeurs peuvent faire juste aller sur change.org, écrire école, directrice adjointe, puis
vont
leur trouver ça sans problème. Là.
On va essayer de mettre ça en ligne sur notre site web lorsqu'on va annoncer la publication là, de la mise en ligne de cette émission.
Oui, ça serait vraiment apprécié. Merci à tout le monde.
Ben, Nicolas Jean-Boisvert, on va devoir s'arrêter ici, le temps file. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Donc, je rappelle que Nicolas Jean-Boisvert est président du conseil d'établissement de l'école Saint-Enfant-Jésus du Plateau-Mont-Royal, une école qui se spécialise pour les enfants avec une déficience auditive et visuelle. Merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie. Passez une excellente journée.
Merci.
Au revoir. On lâche quoi la POC?
Et on commence maintenant notre tour de nos chroniqueurs, commençons avec Yvan Deslauriers. Yvan, vraiment une histoire triste ce matin.
Oui, il y en arrive des comme ça une fois de temps en temps. On espère que ça arrive le moins souvent possible. Donc, c'est une histoire qui a été publiée le 1er mai par Éric Martel dans la presse. C'est intitulé « Je vais gagner la course pour papa ». C'était un ex-itinérant et coureur qui s'est éteint la veille d'un demi-marathon. Le fil d'arrivée, Jonathan Léger Dubuc l'aura franchi beaucoup trop tôt. L'ex-itinérant qui avait ému le Québec après avoir terminé le marathon de Montréal est mort d'un arrêt cardiaque à 39 ans. On l'a retrouvé inanimé dans sa chambre à la mission Old Brewery, une ressource pour personnes en situation d'itinérance. Il a rendu l'âme le 18 avril, vêtu de sa tenue de course. Il se préparait pour le demi-marathon de Montréal qui avait lieu le lendemain. Il avait écrit à son frère Éric avant de mourir « Je vais gagner la course pour papa ». Quand il a terminé son premier marathon, la première chose que je lui ai dite, c'est que notre père serait fier de lui, se souvient Éric. On avait éclaté en larmes. La vie des deux frères a basculé lorsque le père André s'est éteint en 2007. Sur son lit de mort, le père avait fait promettre à l'aîné, Éric, de prendre soin de son petit frère, Jonathan. Jonathan a toujours été fragile. Nouveau-né prématuré, il a passé ses premiers jours dans un incubateur. Une mort certaine l'attendait. Il s'est battu toute sa vie, résume Éric. On ne lui a jamais diagnostiqué de troubles de santé mentale, mais c'était très difficile pour lui à l'école. Il doublait tout le temps, il n'avait pas d'amis, il n'accomplissait rien, il ne recevait jamais d'encouragement. Le parcours de Jonathan Léger Dubuc a complètement déraillé il y a 2 ans. Dépressif, rongé par les dettes et la consommation de drogue, il se retrouve à la rue. Il y vit 2 mois avant de trouver un logement social subventionné à la mission Old Brewery. Il se bat pour demeurer dans le droit chemin. Au début de l'été dernier, Jonathan perd son emploi déboueur. Il souffre mentalement. Son vélo se brise un jour qu'il rend visite à son frère. Cela le met en rage. On était chez moi, à Montréal-Nord, Je lui ai proposé de marcher ou de prendre un bus pour rentrer chez lui. Il m'a répondu « Pourquoi je marcherais quand je peux courir ?» C'était ça, Joe. Il ne faisait jamais les choses à moitié, raconte toujours Eric. Ce jour-là, Jonathan est tombé amoureux. À moins de 2 mois de préavis, il décide qu'il courra le marathon de Montréal. Et contre toute attente, en s'entraînant avec les moyens du bord, il atteint son objectif. Après 4 heures de course, endolori, il termine la course. Dans la vie, je me dis que c'est impossible d'améliorer sa situation sans douleur. Il fallait que je pousse, même si j'étais épuisé. Ça aurait valu la peine. J'ai ressenti la plus grande fierté de ma vie, se félicitait-il après sa course en septembre dernier. Ça a été le plus beau moment de sa vie. Il n'avait jamais été aussi heureux, se rappelle Alexandre Maillé-Beaulieu, qui est intervenant à l'accueil Bonneau, qui l'avait accompagné à la course. La presse et d'autres médias rapportent son exploit. Petit à petit, Jonathan Léger-Dubuc en comprend l'ampleur. Celle-là virait de bord sur un dixaine. Ce n'était pas croyable. Il n'était plus la même personne, souligne toujours Eric. Touché par l'histoire de Jonathan, des lecteurs lui envoient des chaussures, une montre intelligente, un abonnement au gym, des cartes cadeaux pour de la nourriture, des dossards pour participer à d'autres courses. Au-delà des cadeaux, il recevait des tonnes de messages d'encouragement. Des gens sédentaires, inspirés, se mettaient à la course. Des enseignants d'école primaire avaient même lu les articles à son sujet à leurs élèves. Les jeunes prenaient la peine de lui écrire. Il accueillait tout ça, les yeux pleins d'eau, le cœur ouvert. Ça lui donnait des ailes. Jonathan Léger-Dubuc habitait juste devant les locaux de la presse, dans l'immeuble de la mission Old Brewery. Nous l'avions croisé 3 fois après avoir écrit un article à son sujet. Il changeait de trottoir pour nous saluer. Son regard n'était plus le même. Celui qui avait besoin de marcher en parlant pour canaliser son anxiété sociale se tenait droit comme un chêne. Il nous regardait dans les yeux, il transpirait la fierté. À chaque rencontre impromptue, il répétait que les articles à son sujet avaient changé sa vie, qu'il lisait celui de la presse chaque jour pour se motiver. Jonathan aimait regarder par la fenêtre de sa chambre. Il voyait les bureaux de la presse où son père a travaillé comme typographe pendant des années. La vue le rassurait, l'enveloppait. C'est comme si mon père était avec moi. « Je pense que je vais avoir de la misère à partir d'ici », confiait-il en septembre dernier en entrevue avec la presse. Les mois ont passé. Jonathan a cheminé. Il était finalement mûr pour un nouveau départ. Il était près d'un déménagement dans un appartement qui lui offrirait une plus grande indépendance. Il cherchait un emploi. Sa progression était fulgurante. Il remontait la pente. Il avait trouvé sa fierté, son espoir, son amour-propre. Il était en train de changer de vie. C'est déchirant de le voir partir, murmure toujours l'intervenant Alexandre Maillé-Beaulieu. J'ai eu peur pour lui pendant des années de le retrouver mort sous un pont ou dans la rue. Mais là, je n'avais plus peur. Il s'en était sorti. Je ne peux pas croire que sa vie s'est envolée juste comme ça, laisse tomber son frère Éric. Jonathan voyait grand. Il voulait terminer parmi les 100 premiers au prochain marathon de Montréal. Son frère et lui avaient prévu un voyage à Philadelphie. Jonathan allait courir les 50 kilomètres du parcours mythique de Rocky Balboa, le héros des films qui ont bercé l'enfance des deux frères. Joe avait dit que pour lui, il n'y avait rien là. Qu'il allait le faire 2 fois de suite, lance Eric en riant. C'était lui, tout craché. Jonathan ne courait plus pour se défouler. Il se dépassait pour inspirer les gens. Il en avait fait sa nouvelle mission de vie. Depuis quelques semaines, il caressait un rêve. il souhaitait amasser des fonds pour les organismes qui l'ont aidé à se remettre sur pied, à courir. À sa mémoire, Éric Dubuc a lancé une campagne de sociofinancement. L'argent récolté ira directement à ces organismes. Jonathan, je vais prendre la relève, lance Éric à son frère. Tu es peut-être tombé pendant ton marathon, mais je vais te soulever, je vais finir ta course, dit-il, en étouffant un sanglot.
Ouf.
Alors, c'est une belle et triste histoire à la fois.
Ouais.
C'est l'histoire d'un homme qui est tombé, il s'est enfargé, il est tombé. Il s'est relevé et il allait aller plus loin pour de belles raisons, puis la vie s'est arrêtée pour lui.
Ah, oh, mon Dieu, ouais. La vie est injuste parfois, Yvan, c'est vraiment triste comme histoire, mais quand même, c'est une histoire inspirante, hein? Quelqu'un qui a su se relever, puis ça ne veut pas dire que quand on se relève, on retombe comme lui tout le temps, mais quand même, c'est merci d'avoir pris le temps de nous rappeler ce personnage important qui a touché beaucoup nos cœurs. Hein?
Oui, 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 tout à fait, puis j'en avais parlé quand il avait couru son marathon.
Tout à fait.
C'était vraiment un parcours inspirant.
Parfait. Ben, Yvan Deslauriers, merci beaucoup, à la prochaine.
Merci, au revoir.
Et nous, après la pause, ben, ça va être au tour de Monique Kirewa qu'on va parler de vision. Ben oui, hein, on voit moins bien en vieillissant, j'en sais quelque chose. Ou plutôt, c'est parce que les livres et les journaux sont imprimés plus petits, je sais pas. Je vous rappelle donc qu'aujourd'hui, c'est une journée encore nuageuse et plus fraîche là, pour l'est du pays. On prévoit même du gel cette nuit dans certains endroits. Et dans les provinces des prairies, ben c'est beau, c'est chaud, alors profitez-en. Puis il fait beau partout, sauf aussi dans l'ouest, mais il pleut sur la côte ouest, comme d'habitude. Et puis un petit peu plus tard, ça va être la chronique de psychologie sociale avec Roxane de Sablonnière. C'est intéressant, ça aussi. Et on va parler de ce parcours, ce nouveau parcours à Montréal, au quartier des spectacles. Bonjour, chien. Et on va voir comment ça va être intéressant. À tout de suite!
Vous écoutez Au quotidien avec Denis Martin Chabot.
J'ai levé les drapeaux plusieurs fois. Ils étaient rouges, tu ne les voyais pas. On s'est aimé, mais ça ne suffit pas. Les blessures dans nos bagages n'étaient pas faites pour le même voyage. On s'est aimé en décalage. Je t'envoie le signal, un dernier message. Parce qu'au final, on s'est fait mal à essayer de s'aimer encore. Oublions les dommages. Il faut tourner la page. Parce qu'au final, on s'est fait mal à essayer de s'aimer encore. Dis-moi si je suis fou. Comme des tambours sans parade. Vouloir remplir un vide sans fond, c'est vouloir défier la raison. Il faut enfin se rendre compte que l'on détient toutes les réponses. Mais écoute-moi, je t'envoie le signal, un dernier message. Parce qu'au final, on s'est fait mal à essayer de s'aimer encore. Essayer de s'aimer encore. Dis-moi si je
dernier message. Parce qu'au final, on s'est fait mal à essayer de s'aimer encore.
Le signal, une chanson de Gabriel Fredette.
Belle chanson, hein? C'est beau, c'est peu, hein? ça nous parle. Ben là, on va aller faire un petit tour du côté de Monique Quirois qui nous parle de notre vision qui, on doit le dire, hein, comme toute chose, hein, quand on vieillit, parfois c'est moins bon, j'en sais quelque chose.
Oui, on éprouve tous, malheureusement, des petites difficultés à cet égard.
Oui, mais alors, en fait, juste pour te dire, la plupart des gens de mon âge, c'est la vision de près qui est la moins bonne. Moi, je suis de plus en plus myope, ça en est... Écoute, la nuit, si je me réveille, parce que ça arrive, hein, et ben, faut que je mette mes lunettes, parce que je risque d'avoir des accidents.
Ah, mon Dieu! Eh bien, moi, c'est le contraire. Avec la presbytie, ma myopie est pratiquement disparue. Alors, j'ai un peu de chance, mais j'ai d'autres difficultés. Mais on revient au professeur Langis Michaud, qui nous raconte d'abord l'histoire d'un couple typique d'une partie de sa clientèle qui cumule plusieurs pathologies à l'œil. Alors, on parle ici de Jacqueline et Henri. Henri, c'est un ex-conducteur de camions lourds. Il souffre de diabète depuis plusieurs années. Il s'est oublié dans le travail et n'a pas consulté quand les points noirs et les lignes qu'il voyait déformées se sont multipliées avant que le rideau noir de la cécité ne tombe. Conséquence, il est en perte d'autonomie, vous le devinez, il ne peut plus prendre soin de lui et a besoin d'aide au quotidien. Du côté de Jacqueline, c'est pas top non plus. Elle souffre de cataracte avancée. Elle tarde à se faire opérer car elle ne veut pas laisser Henri sans soins immédiats. Elle craint aussi le développement d'une dégénérescence maculaire parce que ses parents en ont été atteints, les laissant handicapés visuels à la fin de leur vie. Bon. Sachons que des moyens de prévenir les conséquences néfastes du vieillissement sur la santé oculaire existent. Parlons d'abord de la rétinopathie diabétique. Le diabète représente la première cause de cécité évitable. Et je souligne, Denis Martin, évitable.
Ouais.
Les lésions apparaissent en moyenne 10 ans après le diagnostic du diabète de type 1, qui touche on l'appelle le diabète juvénile, ou 20 ans pour les personnes qui éprouvent donc le diabète de type 2, celui spécifique des adultes. Au Canada, 18% des personnes de 60-79 ans en souffrent. Au plan visuel, le diabète affecte la capacité à lire, les mouvements des muscles oculaires et l'altération ou la prolifération des vaisseaux sanguins qui sont la cause principale de la perte visuelle associée au diabète. La cécité est pourtant évitable. D'abord, en consultant l'optométriste régulièrement après l'âge de 45 ans ou dès que l'on se sait diabétique. En effet, 20% des patients présentent déjà des lésions rétiniennes au moment du diagnostic de la maladie. Les symptômes visuels commencent par une vision parfois claire, parfois floue et qui change de jour en jour. Des points noirs flottant de plus en plus nombreux, voire des taches noires plus stables, la présence de flashs lumineux, la difficulté à reconnaître les couleurs alors qu'on les avait toujours vues sont tous des manifestations associées au diabète. Henri, il les avait éprouvées, mais il n'a pas trouvé le temps ou il ne s'est pas donné le temps de consulter à temps. S'il avait agi plus tôt, la maladie aurait pu être dépistée et stabilisée, réduisant par le fait même les risques de complications. Deuxième problème, le glaucome. Comme le diabète ou l'hypertension artérielle, le glaucome se développe sans que le patient ne s'en rende vraiment compte. Certes, les contrastes peuvent être plus difficiles à voir, notamment le soir, en éclairage réduit, mais c'est l'étendue de ce que l'on voit de côté, ce qu'on appelle le champ visuel, qui se rétrécit lentement. Alors la personne s'habitue à tourner la tête pour voir une chose qui pourtant se situe à côté d'elle. Ici encore, les conséquences négatives sont évitables en consultant régulièrement l'optométriste. À l'examen, Le glaucome sera visible par le nerf optique qui pâlit et devient plus profond. La pression à l'intérieur de l'œil augmente aussi. Les champs visuels mesurés de façon préventive présenteront des défauts. Le diagnostic du glaucome sera établi. Prise en charge à temps, mais le glaucome peut être contrôlé. Certes, il y aura toujours des pertes mineures du champ visuel, mais minimes par rapport à la condition non traitée qui, elle, peut entraîner la cécité. Autre problème, les cataractes.
Oui.
Alors, tout le monde qui vieillit verra son cristallin, ça correspond à la lentille intérieure de l'œil, devenir opaque avec l'âge. La cataracte, en fait, c'est la vision qui devient floue, comme une vitre qui se salit tranquillement. Tout d'abord, la lecture et les détails sont vus brouillés, doubles parfois. Puis, il y a les visages qu'on reconnaît moins, les panneaux sur la route difficiles à lire et l'éblouissement qui accompagne toute sortie de jour comme de nuit. Les cataractes viennent du fait que le cristallin est responsable d'absorber les ultraviolets du soleil afin de protéger la rétine. Alors, à force de se faire bombarder, il change son métabolisme et perd sa transparence. La prévention relève d'abord de la personne qui doit notamment veiller à protéger ses yeux contre les rayons UV. C'est d'ailleurs vrai dès l'enfance, soit la période où, en théorie, on est le plus dehors et donc le plus exposé aux rayons nocifs. Tout au long de notre vie, qu'il fasse soleil ou non, il faut donc se protéger avec des lunettes solaires ou demander qu'un filtre contre les UV soit ajouté à nos lunettes claires. Il y a aussi de nombreuses lentilles cornéennes qui contiennent des filtres UV. L'optométriste peut recommander les produits les plus appropriés. Mais on ajoute aussi, Denis Martin, que manger sainement et maintenir une santé sous contrôle aide à la chose. Ces mesures vont retarder la cataracte sans toutefois l'empêcher. Quand elle sera visuellement dérangeante, elle devient opérable. La chirurgie, faut être assuré, là, elle est rapide, bien maîtrisée et permet de restaurer la vision en autant que la rétine, c'est-à-dire le fond de l'œil, soit intacte. Les deux yeux peuvent être opérés durant la même procédure.
C'est fou, hein? Il n'y a pas longtemps, on faisait qu'un seul œil à la fois.
Exactement, mm-hmm. Oui. Alors, une cataracte trop mature peut entraîner un temps de récupération post-chirurgie plus long et plus de complications. Dans un monde idéal, toute cataracte serait opérée avant qu'elle ne nuise à la vision.
Ouais.
On garderait ainsi une qualité de vie inaltérable.
Ouais.
Passons maintenant à la dégénérescence maculaire. Jacqueline craint de développer la dégénérescence maculaire liée à l'âge. On appelle aussi ça la DMLA. Les facteurs de risque sont là. Hérédité, sexe féminin, origine caucasienne, absence de protection contre les UV. Heureusement, il y a une chose favorable dans son cas, elle ne fume pas et Henri a cessé il y a quelques années parce que la fumée secondaire peut être aussi nocive que celle que l'on inhale. On ne peut pas lutter contre la première cause de la DMLA, soit le vieillissement. La proportion augmente avec l'âge. Plus de 2,5 millions de Canadiens en souffrent. À long terme, que peut-on faire? Ben, la prise d'oméga-3 a été jugée utile. Récemment aussi, des complexes de vitamine B, c'est-à-dire qui comportent la 6, la 9 et la 12, ont été jugés protecteurs. Encore une fois, alimentation saine, le contrôle médical de l'hypertension artérielle, du diabète et du cholestérol, ainsi que l'absence de tabagisme contribuent également à protéger la vision. Jacqueline et Henri nous rappellent qu'il ne faut pas prendre pour acquis le bon fonctionnement du sens vital qu'est la vision. Le vieillissement, oui, joue un rôle important dans le développement de pathologies qui peuvent mener à la cécité. Mais comme on a vu, la plupart peuvent être évitées ou retardées en remarquant les symptômes qui apparaissent, en consultant notre optométriste régulièrement, en maintenant une hygiène de vie et en contrôlant les problèmes de santé générale qui peuvent nous affecter. Alors, pour ceux qui ont tardé à prendre rendez-vous chez leur optométriste, allez, composez le numéro et prenez rendez-vous au plus vite.
Tu restes avec nous, on revient dans quelques minutes.
De bord. Coucou, comment ça va?
Eh oui, coucou, comment ça va? Monique, on revient à toi.
Oui, ça va toujours bien, Denis.
Ça va toujours bien, oui. On va faire un petit peu de musique, là, parce qu'on était un peu... c'était du sport ce matin, hein, depuis le début, là. C'était un peu serré. Fait qu'on se donne un petit peu de musique, ça fait du bien. Mais on va quand même parler des brèves intéressantes avec toi. De combien de cellules notre corps est-il constitué? Je ne réponds pas à la question, parce que je ne sais pas.
Tu vas être étonné, je pense.
Oui.
Alors, selon les recherches les plus récentes, le corps d'un humain adulte de taille et de poids moyen comporterait environ 70 milliards de cellules.
Aïe,
mais attendez, cher ami. Et, chose très surprenante, si on fait l'exercice de les compter précisément, il semble que nous soyons minoritaires dans notre propre corps.
Arrête.
J'explique.
Ouais.
En effet, le corps humain renfermerait aux alentours de 30 milliards de cellules qui nous appartiennent et 40 milliards de cellules qui ne sont pas les nôtres.
Ah bon?
Alors,
on a des visiteurs ou des locataires peut-être?
Ben, il s'agit de bactéries, de virus et de champignons qui vivent en nous et sur nous. D'un point de vue philosophique, cette découverte a aussi suscité beaucoup d'hypothèses parmi les chercheuses et les chercheurs à propos de la frontière entre le soi et le non-soi. En effet, que veut dire la notion d'individu quand cet individu est constitué d'un plus grand nombre de cellules étrangères que de cellules qui lui sont propres? La question demeure toujours. La comparaison, semble-t-il, est encore plus vertigineuse lorsqu'on s'attarde aux gènes. Chaque humain en compte entre 20 000 et 25 000. Mais le génome des bactéries et des virus que l'on porte en nous serait 500 fois plus important. Alors voilà, vous en savez plus sur votre propre corps maintenant et vos cellules.
Ben, des fois, je me dis, il y a peut-être des choses dans la vie qui ne serait peut-être plus qu'on ne sache pas, finalement.
Ah, vous trouvez? Alors, je rappelle à nos auditrices et auditeurs, Denis Martin, que cette petite brève, je l'ai repérée dans un livre qui s'appelle « Le moteur de recherche ». Et qui a été publié par Mathieu Dugal. Et il faut savoir que l'émission qu'il anime, ben, c'est pas des questions qu'il se pose lui-même, mais ce sont toujours des questions que les auditrices et auditeurs lui posent et sur lesquelles l'équipe fait des recherches. Donc, c'était une question d'un auditeur ou d'une auditrice qui nous amène à ces révélations quand même assez étonnantes.
Tout à fait, tout à fait. Les narcissiques sont-ils distraits par les miroirs? En tout cas, le roi narcissique, lui, c'était son reflet dans l'eau, hein?
Oui. Alors, qu'en pensez-vous?
J'imagine que si on se trouve beau ou belle, ben, on aime ça se regarder, non?
Oui. Alors, pris en flagrant délit par l'oculométrie.
L'oculométrie.
Oui,
alors... c'est un beau terme. Ouais.
Alors, je vous dis ce que c'est. Alors, c'est des mini caméras intégrées dans des lunettes ont enregistré les mouvements des yeux de 146 volontaires soumis à un petit exercice par des chercheurs autrichiens de l'Université de Graz qui étudient le narcissisme. Alors, imaginez, des chercheurs qui se penchent sur ce phénomène. Ils devaient appuyer sur un bouton aussi vite que possible quand un T apparaissait sur le côté d'un écran noir qui réfléchissait leur image. Résultat, plus leur estime de soi ou leur narcissisme était grand, ben plus les joueurs fixaient longuement leur reflet. Un biais qui s'auto-renforcerait, selon les chercheurs. Plus on se regarde, plus on a envie de se regarder. Alors, peut-être que Narcisse serait tombé dans l'eau s'il avait continué à se regarder.
Ben, de toute façon, maintenant, il tomberait peut-être dans son écran de cellulaire. Mais ça, c'est autre chose.
Oui, c'est ça.
Alors, capsule linguistique, faire du sens. Ça, on l'entend souvent. C'est un anglicisme en passant.
Comme disait Mathieu, vous avez voulu me taquiner parce que la chanson de Commandant de bord... utilise allègrement cette expression.
Tout à fait.
Qui est surtout utilisée à l'oral au Québec.
Ouais.
Mais son emploi résulte vraisemblablement, Denis Martin, de l'influence de l'anglais « to make sense », qu'on a tout simplement traduit. Pour exprimer la même idée, il y a tellement d'autres expressions. Il y a bien sûr l'emploi de « avoir du sens », mais il y a d'autres expressions comme « être logique », être sensé, être une bonne idée, tenir debout. Alors, un geste peut avoir un sens ou ne pas avoir de sens. On peut trouver aussi, on peut utiliser trouver, donner un sens à quelque chose. Donc, il y a toujours de très beaux termes qui peuvent être utilisés au lieu d'un anglicisme.
Et pourtant, en français, on dit quand quelqu'un n'a pas de sens, hein, quand on dit quelqu'un qui n'a pas de bonne idée, on dit qu'il est insensé. J'ai toujours la mauvaise question ou la bonne question.
C'est ça. Alors, quand j'ai cherché quand même des données qui étaient solides, cette information, je l'ai tirée de la banque de dépannage linguistique de l'Office québécois de la langue française. En bas de page, il y avait une autre expression qui était « faire sa part ». Et on nous dit que c'est aussi un calque de l'anglais. « To do one's part ». Alors, on choisira des expressions vraiment... très simple et que l'on connaît, ben, apporter sa contribution ou encore collaborer, contribuer, participer, C'est des mots qu'on connaît, n'est-ce pas?
Ben oui.
Pourquoi ne pas les utiliser?
Ben oui, ben on va tous contribuer à rendre notre langue plus agréable à écouter, peut-être?
Peut-être. Alors, je vous souhaite une bonne fin d'émission.
Une bonne fin de semaine aussi. Merci beaucoup, Monique.
Au plaisir.
Je viens de la plaque tournante, home of the nightlife. Flow, faire les affaires dans les deux langues, c'est un instinct. L'hiver, on gèle, mais au printemps, c'est un melting pot. Tu peux trouver tout ce que tu veux dans la métropole. Ma fleur est bleu ciel, mais mon cœur est bleu expo. Mon tricot est tricolore, c'est notre deuxième peau. De la musique à mes oreilles, comme un vieux sample. La nuit, on prie à Saint-Cat que nos voeux s'exaucent. D'où je viens, tu peux doubler on a good day. Mais ça joue du coude, tu peux tout perdre sur un coup de dé. De Pointeau à Parkex jusqu'à l'ouest. The park. Moins de beef, plus de bread, je veux l'inverse de Schwartz. Un été à Montréal, c'est chaud, mais d'où je viens, même l'hiver, c'est un fashion show. On a mission international, but I just can't wait d'être back chez nous. D'où je viens? Dans les rues, ça bouge vite quand tu viens. D'où je viens? D'où je viens? Le district est rouge vif, la brique est rouge vin. D'où je viens? Jamais j'oublie où je vis, je me souviens d'où je viens. Mon flambeau a la forme de la fleur de lys. Puis peu importe où je vais, je vis à l'heure de l'Est. D'où je viens, no place like home. Je viens du royaume de Mozayan et de Leonard Cohen.
Montréal.
No place like home, où on spark entre les cônes. Puis on spark des cônes. Là où l'or est fait en vraie médaille. Peu importe d'où tu viens, tu peux devenir ce que tu rêvais d'être. Le mont est royal, le trône c'est un belvédère. Tu peux mettre une croix dessus, but the city never dies. D'où je viens? Au cœur de l'Amérique française. Là où la flamme a jamais flicker depuis 76. En hiver, faut la mettre en scène. C'est pour ça qu'on party outside, même à moins 35. Frequent flyer, ticket buyer. Chaque week-end, je suis en visite ailleurs. De New York à Mallorca, à Tokyo. Still can't wait till they take me home. D'où je viens? Dans les rues, ça bouge vite. Quand tu viens, d'où je viens? D'où je viens? Le district est rouge vif, la brique est rouge vin. D'où je viens? Jamais j'oublie où je vis, je me souviens d'où je viens. Mon flambeau a la forme de la fleur de lys. Puis peu importe où je vais, je vis à l'heure de l'Est. D'où je viens. D'où je viens. D'où je viens. D'où je viens.
C'était Rough Sound et Loud, d'où je viens, c'est le titre de cette chanson.
Chanson qui est la chanson thème hein, du 50e anniversaire des Jeux olympiques d'été de Montréal. My God, hein, ça fait longtemps. Écoute, j'étais tout jeune à l'époque, je me souviens de ça. Et donc, on a fait les Jeux olympiques avec un stade qui n'était pas fini. Et on va célébrer le 50e anniversaire avec un stade qui est en réparation. Mais bon, c'est parfait, on va s'amuser pareil. Et pour ceux qui ont vu les cérémonies là, pour annoncer ce 50e anniversaire, bien, il semblerait que Nadia Comăneci, qui est une grande figure de proue de ces Jeux olympiques d'été de Montréal, elle a parlé, elle parle très bien français encore, hein, c'est quand même bien, la Roumaine, qui vit, je crois, maintenant aux États-Unis, et donc promet d'être là pour les cérémonies. Alors, le temps de faire une petite manchette dans la presse plus, le transporteur Air Asia, désormais le plus gros client pour l'avion A220, accentue la pression sur Airbus pour le développement d'une version allongée de l'appareil. Cette demande vise à accroître la capacité de passagers afin d'optimiser la rentabilité des liaisons en Asie. Le contrat liant les deux parties prévoit une commande de ferme de 100 appareils assortie d'une option d'achat de 50 unités supplémentaires. Cette entente majeure représente une valeur estimée à plusieurs milliards de dollars et garantit un carnet de commandes rempli pour les installations québécoises, situées à Mirabel en fait, jusqu'au début de la prochaine décennie. Un contrat qui assume le maintien et la pérennité de 4000 emplois. Quand même, beaucoup de monde à cet aéroport. Et je voulais vous dire que ce week-end, ce dimanche, c'est la fête des mères. Alors, pour ceux qui ont encore leur maman, c'est le temps de lui dire qu'on l'aime. Et ben oui, hein, la fête des mères qui s'en vient. Nous, après la pause, on va faire une autre chronique de psychologie sociale avec Roxane de la Sablonnière. On va parler de ces, l'intelligence artificielle et les changements sociaux qui sont dus à l'intelligence artificielle, les relations parasociales. Comment est-ce qu'on vit ça avec l'intelligence artificielle? Il y a des gens qui se confient à ChatGPT tous les soirs, tous les jours pour demander conseil. Mais bon, ChatGPT n'est pas un thérapeute, je vous le dis tout de suite, mais bon, c'est comme ça que c'est. Je vous rappelle aussi la météo. Ben, ça va être encore pas mal gris, c'est frais. On annonce même du gel peut-être dans l'est du Québec. Mais bon, ça va se réchauffer. Et on vous promet que la semaine prochaine, là, vers la fin de la semaine prochaine, on va être dans les 20. Ça va rester.
Vous écoutez Au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Dans une du devoir aujourd'hui, en vertu de nouvelles règles proposées par la ministre de l'Éducation, Sonia Lebel, les écoles auront la possibilité de délaisser l'achat de livres au profit d'activités sportives ou parascolaires. Le milieu littéraire tire la sonnette d'alarme. Cette situation découle d'une modification des règles budgétaires du ministère de l'Éducation qui limite désormais la possibilité pour les établissements de puiser dans leur surplus financier pour éponger certains déficits d'exploitation. Des directions d'école craignent de devoir imposer des choix difficiles entre le renouvellement des collections en bibliothèque et le financement des équipes sportives. Alors que le gouvernement de Christine Fréchette appelle à une gestion rigoureuse, les syndicats et les associations de parents dénoncent une pression accrue sur les services directs aux élèves. C'est le temps de parler de psychologie sociale, les relations parasociales et l'intelligence artificielle. Je disais tout à l'heure qu'il y a des gens qui se confient à ChatGPT tous les jours. Alors bonjour, Roxane de la Sablonnière.
Bonjour, ça va bien?
Oui, ça va bien, je rappelle que vous êtes professeure titulaire au département de psychologie de l'Université de Montréal, directrice du laboratoire sur les changements sociaux, l'adaptation et le bien-être et cofondatrice du projet Intercom. Je me demande des fois si elle dort la nuit, cette femme. Elle a le temps pour dormir, oui.
Évidemment.
Ben oui, je vous taquine. Alors, allons-y, on parle d'intelligence artificielle.
Oui, j'ai préparé cette chronique avec Oumi Silla, une de mes étudiantes au baccalauréat à l'Université de Montréal. Donc, l'intelligence artificielle, comme vous le savez, connaît une hausse fulgurante. Donc, selon Radio-Canada, en 2024, il y avait 30 % des Canadiens, soit environ une personne sur trois, qui utilisaient régulièrement l'intelligence artificielle. Puis ça représentait déjà une augmentation de 5 % par rapport à l'année précédente. Puis en 2025, Il y a une autre étude qui a été menée avec l'Université de Melbourne dans plusieurs pays, 17 pays, puis on a relevé que 66 % de la population mondiale utilise maintenant l'intelligence artificielle dans son quotidien.
Quand même, oui.
Oui, c'est quand même beaucoup, donc ça fait partie de notre vie. Il y a une montée de sa popularité. Il y a aussi d'innombrables avancées technologiques. Mais tout ça s'accompagne évidemment de conséquences, qu'elles soient positives ou négatives. Puis ça amène plusieurs avantages. On le voit, des fois, on parle de gains en efficacité, meilleure accessibilité, ça facilite certaines pratiques. Mais il y a aussi un envers de la médaille. Ça peut soulever des enjeux liés à l'intégrité, à la propriété intellectuelle, puis aussi à la manière dont on construit nos relations entre nous.
OK.
Est-ce que vous avez déjà vu le film R, H-E-R?
Non.
Non. Dans ce film-là, puis c'est un film de 2014, donc on remonte à plus
Quand même.
Spike Jonze raconte l'histoire d'un homme qui est sensible, solitaire, qui a vécu une rupture importante, une rupture amoureuse, puis il développe une relation amoureuse avec un programme d'intelligence artificielle. Donc, c'est une voix qui s'appelle Samantha. Puis, ce qui paraissait à ce moment-là dystopique, donc il y a 12 ans, c'est plus si loin de notre réalité actuelle.
Donc, toute interaction avec une intelligence artificielle, ça correspond-elle automatiquement à une relation parasociale?
Bien, c'est ça, exactement. Pas nécessairement. Mais d'abord, je vais vous expliquer c'est quoi une relation parasociale. Donc, pour vous donner un exemple, l'autre jour, je discutais avec ma voisine, puis ce qu'elle m'expliquait, c'est que sa fille de 16 ans utilise souvent l'intelligence artificielle. Puis, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle se confie, elle demande des conseils pour prendre des décisions, par exemple. Donc, sans même s'en rendre compte, elle développe des relations parasociales avec ses systèmes. Donc, une relation parasociale, c'est une connexion qu'on a à la fois qui est sociale et émotionnelle, donc qu'on développe avec des personnages ou des figures médiatiques. C'est un terme qui a été introduit en 1956, donc ça fait longtemps qu'on parle.
Ça date pas d'hier,
oui. Oui, ça date pas d'hier. Donc, l'idée, c'est vraiment que c'est une relation interpersonnel, donc avec une autre personne, mais qui est imaginaire d'une certaine façon, mais qui est ressenti fortement par la personne qui le vit.
C'est un peu comme l'anthropomorphie qu'on fait avec nos animaux, quoi.
Oui, exact.
Ça ressemble un peu à ça,
oui. Ouais. Sauf que l'animal est réel, est avec nous.
Oui, puis il y a une réaction de temps à autre. Ouais.
Oui, c'est ça. Donc, exactement. Donc, Horton et son équipe de l'Université de Chicago, donc des chercheurs, utilisaient ce concept pour décrire des relations qui ont été développées avec du public, avec des personnes qui apparaissaient dans les médias. Donc, on parle ici de célébrités, des personnalités publiques. Et aujourd'hui, on parle beaucoup d'influenceurs numériques, des gens qui tombent en amour avec leur influenceur ou qui ont le sentiment qu'ils vivent une relation. Et là, de plus en plus, on peut penser au phénomène, par exemple, comme Céline Dion, qui a une base de fans importante. Mais plus récemment, puis c'est de ce dont on parle aujourd'hui, c'est que cette théorie a été étudiée pour évaluer la relation qu'on développe avec des agents de service fondés sur l'intelligence artificielle. Donc, les travaux de ces chercheurs s'intéressent à la nature des liens qu'on développe avec ces systèmes intelligents. Donc, ici, un agent de service, c'est fondé sur l'intelligence artificielle. C'est un système qui est interactif, donc il y a un lien qu'on développe. Puis l'idée initiale, c'était peut-être de donner un certain soutien pour améliorer nos performances. Donc, on entre en interaction avec un dialogueur, donc un chatbot ou bien des assistants virtuels. Le cas ici de ChatGPT, donc c'est un exemple concret. ChatGPT, aujourd'hui, nous assiste dans plusieurs tâches. On peut préciser nos demandes, on interagit avec lui. S'il ne comprend pas, on va y expliquer. Puis souvent, l'expérience est individualisée. Donc, elle est propre à nous en fonction des interactions qu'on a eues. Donc, ça devient une expérience qui peut faciliter le fait qu'on développe une relation avec ses dialogueurs. Donc, par exemple, concrètement, hier, j'ai posé une question à ChatGPT. Puis suite à notre échange, il m'a félicité de ma bonne question, que j'avais posé une bonne question. Enfin, donc, je me suis sentie valorisée par rapport à ça.
Ah bon?
Mais Donc, c'est ce type de personnalisation qui fait en sorte qu'on peut développer une relation avec ces dialogueurs-là ou ces robots-là.
Bon, je reviens à la question que j'avais posée trop tôt. Toute interaction, donc, avec une intelligence artificielle, que ce soit ChatGPT, dans mon cas, moi, j'utilise Gemini.
Oui.
Mais est-ce que ça correspond automatiquement, donc, à une relation parasociale?
Pas nécessairement, parce qu'une relation parasociale émerge dans des conditions spécifiques. Par exemple, il doit y avoir un sentiment de proximité, de continuité ou bien d'engagement émotionnel. C'est un engagement qui est souvent unilatéral, ça veut dire dans un sens.
Ouais.
Donc, ça va au-delà d'un simple échange fonctionnel ou instrumental. Ça dépasse le soutien, là, l'aide qu'on peut avoir comme ça. Il est où le chemin? Où je devrais aller? Devrais-tu tourner à gauche ou à droite? C'est qu'il y a vraiment un lien sentimental, si on veut, qui se crée dans ces cas-là. Donc, autrement dit, une simple interaction qui est instrumentale, par exemple, de demander une information à un système... ça ne veut pas nécessairement dire qu'on va développer une relation parasociale. Donc, si je demande à Alexa quelle température qu'il va faire demain, si je mets un habit de pluie ou pas, bien, ça reste que c'est une information qui est instrumentale, qui va m'aider dans mon quotidien, mais sans plus. Par contre, si je lui demande un conseil parce que j'ai vécu une rupture, puis je lui demande qu'est-ce qu'elle pense de ça, bien là, il y a un lien, il y a un échange qui est peut-être plus profond qui pourrait se développer par rapport à ça. Donc, voilà.
Ben, on va faire une petite pause, on continue. Bon, on a le temps de reprendre notre souffle vis-à-vis ChatGPT. Donc, on vient de dire avant la pause, donc certaines conditions doivent être réunies là, avant de pouvoir dire qu'il y a un lien entre un utilisateur et une intelligence artificielle qu'on peut attribuer d'être parasocial.
Oui, exactement. Puis ce type de relation n'apparaît pas automatiquement. Évidemment, ça dépend du contexte puis aussi de la manière dont on interagit avec l'intelligence artificielle.
Alors, comment en vient-on à construire une relation parasociale avec une intelligence artificielle?
Bien, il y a certaines particularités des agents de service qui favorisent l'émergence de ce type de relation. Donc, il y a deux facteurs qui sont importants. D'abord, il y a
l'anthropomorphisme.
Exactement. Merci de m'avoir aidé.
Ah, c'est un terme que j'utilise souvent parce que je dis aux gens, moi, j'ai un chien, je suis l'humain de mon chien. Non, ce n'est pas mon enfant. Je n'ai pas de relation anthropomorphique avec mon chien.
Mais on entend souvent ça, en effet. Puis il y a aussi le second facteur, c'est le plaisir qu'on associe à l'usage de... Oui, exactement. Donc, lorsque l'agent est perçu comme doté de traits humains, c'est ce que vous disiez,
anthropomorphisme,
exactement, puis qui procure une expérience qui est engageante ou agréable, bien, les utilisateurs sont davantage enclins à développer un lien parasocial avec lui. Donc, à l'inverse, si un agent est utilisé pour son efficacité, ça va rapidement, il n'y a pas nécessairement un sentiment de complicité qui va se développer. Donc, ça limite les chances de développer une relation qui est plus intime avec le robot, disons-le.
Tout à fait.
Ouais. Donc, il y a justement une étude de 2018 de Anne et Yang qui s'est intéressée aux relations pour lesquelles les utilisateurs continuent d'adopter et d'utiliser les assistants personnels intelligents. Ils ont sondé 300 personnes dans un questionnaire. Et puis, ils ont sondé 300 personnes dans un questionnaire, puis avaient émis l'hypothèse que l'attraction sociale allait influencer la relation. Puis c'est ce qu'ils ont trouvé dans leurs résultats. C'est vraiment quand l'intelligence artificielle ressemble à l'humain, un discours similaire aussi à celui de l'humain, qui est agréable, bien c'est là qu'on va favoriser que ce lien-là entre l'intelligence artificielle et nous, l'humain, va naître ou va émerger.
Alors moi, j'avoue que je n'arrive pas à me faire un lien parce que le ton de voix de Gemini me tape sur les nerfs.
Oui.
Peut-être que c'est une relation anthropomorphique, vraiment, il me tape sur les nerfs, oui. Alors, ces relations parasociales sont-elles forcément problématiques ou peuvent-elles aussi avoir une valeur positive?
Bien, il y a des chercheurs qui ont mis en évidence le rôle que ça peut avoir en lien avec le soutien social. Donc, il y a certains dialogueurs qui peuvent nous procurer un certain sens de soutien quand on en a moins ou qu'on en a besoin. Donc, il y a une recherche qui a été faite, une analyse thématique qualitative qui portait sur les relations qu'on a avec les utilisateurs de réplicas. Donc, et les résultats indiquaient que ce dialogueur peut, entre autres, offrir un espace sécurisant, susciter des affects positifs à travers des messages encourageants et fournir un soutien informationnel. Donc, depuis 2020, l'application du dialogueur réplica propose des fonctionnalités permettant aussi de simuler une relation amoureuse avec un partenaire virtuel. Là, on dépasse le simple soutien social ou la demande de conseil. Là, on peut aussi entrer dans une relation amoureuse avec ce type de dialogueur. Il y a justement un chercheur ici, qui est au Kingsey Institute de l'Université de l'Indiana, qui est aussi professeur associé au département de sexologie à l'UQAM, Simon Dubé, qui explore les relations érotiques que peuvent être développées entre les utilisateurs et les robots. Puis ici, le robot désigne un agent artificiel qui inclut les intelligences artificielles et les dialogueurs. En anglais, on dit chatbot. C'est ça. Donc, j'écoutais récemment une entrevue à Radio-Canada avec Simon Dubé, où il soulignait une valeur potentielle que peuvent avoir les intelligences artificielles dans ce contexte érotique, même si ça reste encore un sujet qui est quand même assez tabou. Donc, il mentionnait notamment que ces outils robotiques peuvent contribuer à l'éducation sexuelle, surtout lorsque c'est validé par des experts. Okay. Donc, si ces fameux dialogueurs-là sont faits à partir de données scientifiques, il peut y avoir une réelle valeur à ça. Puis, ça peut avoir des effets bénéfiques sur les enfants, les adolescents, puis même chez les adultes qui se posent des questions sur tout ce qui entoure la sexualité, l'intimité. Mais évidemment, il faut que ce soit des informations validées et que ce soit bien encadré par des sources scientifiques.
Donc, on ne va pas se fier à l'intelligence artificielle fournie par Elon Musk.
On va essayer, en effet.
Ah oui.
Puis, lorsque ces relations parasociales, ils peuvent devenir très personnels. Donc, et puis, ça peut aider certaines personnes à reprendre le contrôle de leur sexualité. Par exemple, en donnant des conseils sur comment draguer, comment être un meilleur partenaire sexuel, comment aussi communiquer nos besoins lorsque ça peut être plus difficile. Donc, ça peut être une forme d'éducation sexuelle, si on veut. Mais il ne faut pas oublier aussi, parce que c'est facile de tomber dans le jugement, il ne faut pas oublier que tout le monde n'a pas nécessairement accès aux mêmes ressources ou aux mêmes espaces sécuritaires pour explorer divers aspects de notre sexualité. Donc, dans certains endroits, ça peut être tabou. Donc ici, je cite Simon Dubé qui dit « Ces technologies-là peuvent permettre une plus grande démocratisation du plaisir. » Mais ce chercheur, il spécifie aussi que les relations parasociales représentent à la fois un nouveau possible et un problème.
En effet, tout dépendant des sources qu'on utilise pour faire fonctionner cette agent de conversation ou intelligence artificielle. Cette utilisation des robots, là, est-ce que ça pourrait mener à davantage de solitude, par contre?
Oui, bien, c'est vraiment une bonne question. Puis il y a certains qui pourraient affirmer que la possibilité de former des liens peut, dans une certaine mesure, atténuer la solitude vécue par certaines personnes. Mais la réalité est beaucoup plus complexe que ça. Il y a certainement certains enjeux éthiques qui sont importants à considérer. Dans certains contextes, ça peut, oui, offrir une forme de soutien ou de réconfort, mais il peut aussi y avoir le potentiel, d'effets négatifs sur la socialisation humaine. Il y a des gens qui pourraient en venir à substituer partiellement ou totalement leurs interactions humaines par des interactions artificielles. Puis ça soulève une question importante. Où se situe la limite entre le soutien et la dépendance émotionnelle? J'ai écouté à Radio-Canada aussi un reportage qui discutait de l'utilisation des animaux en peluche pour les enfants qui intègrent l'intelligence artificielle. Donc, est-ce qu'on veut vraiment, comme société, que nos enfants deviennent si liés à un jouet? Parce qu'ils peuvent aussi, ces jouets-là, avoir une influence chez eux. Donc, Simon Dubé mentionnait également dans son entrevue, il faut se questionner sur les indicatifs de ces entreprises technologiques. Donc, ces entreprises qui sont derrière ces intelligences artificielles, bien, elles veulent maintenir l'engagement des utilisateurs. Donc, c'est une façon d'avoir des gens qui utilisent ces services-là. Et ça ne va pas nécessairement de pair avec le bien-être des individus quand il y a des intérêts financiers qui sont en jeu. Donc, tout ça pour dire que les relations avec l'intelligence artificielle, ça devient une réalité qui est de plus en plus présente, en particulier pour les nouvelles générations. Puis ça devient essentiel d'en encadrer le développement d'une manière responsable, que ce soit à travers la recherche, la sensibilisation ou même les lois. Il faut réfléchir à la place qu'on souhaite accorder à ces technologies, au rôle qu'on désire dans nos relations, à son rôle aussi dans nos relations avec les autres. La vraie question, c'est peut-être pas de savoir si ces relations sont forcément problématiques ou quelles valeurs positives il y a, mais plutôt comment choisissons-nous de les encadrer et jusqu'où sommes-nous prêts à les intégrer dans nos vies.
Ah, Roxane de la Sabine, c'est toujours pertinent. J'adore comment on encadre ça. Puis malheureusement, il n'y en a pas d'encadrement beaucoup. C'est ça qui nous inquiète. Merci beaucoup, Roxane, d'être venue à l'émission.
Merci à vous. Merci. Au revoir.
Roxane de la Sablonnaire, donc, qui est notre experte en psychologie sociale, qui vient nous parler régulièrement ici, à Canal M. Alors, désolé pour ça, on attendait de pouvoir faire une entrevue avec Felipe Arriagada Nunes, qui est mieux connu sous le nom de Chien Champion. Malheureusement, on a des problèmes de communication. Ça arrive dans notre monde moderne. On parlait de l'intelligence artificielle tout à l'heure. Bien, souvent, il y a des ennuis. Puis là, bien, à quelques minutes de la fin de l'émission, ça devient un petit peu impossible de régler ce problème-là. Alors, on va
essayer de se reprendre. On voulait vous parler donc de cette deuxième édition de la série Carte Blanche qui est en partenariat avec le Quartier des spectacles. Et Felipe Arriagada-Nunes, lui, nous transforme donc toute cette partie du Quartier des spectacles qui nous change un peu comme un parcours où c'est son alter ego, hein, Chien Champion, qui nous fait vivre un peu ce qu'il a vécu, son héritage familial, parce qu'il est chilien d'origine, ce voyage aussi, cette immigration, sa vue du paysage montréalais, le soccer et tout ça. Alors, c'est malheureux, on aurait aimé faire l'entrevue, mais on va devoir remettre ça une autre fois parce que nous manquons de temps. Et je vais continuer d'ailleurs avec des brèves. Le devoir hier, le vent tourne pour les politiques d'équité, de diversité et d'inclusion, communément appelée EDI, au sein de plusieurs grandes institutions d'enseignement supérieur chez nos voisins du Sud. Après des années de mise en place systématique, de nombreuses universités états-uniennes font actuellement marche arrière en démantelant leurs programmes dédiés ou en réduisant considérablement leur budget. Ce recul s'inscrit dans un contexte de pression politique et législative croissante, particulièrement dans certains États où de nouvelles lois interdisent désormais le financement public de ces initiatives. Plusieurs observateurs notent que ce virage marque une rupture importante avec les engagements pris par le milieu académique au cours de la dernière décennie. En juin 2023, la Cour suprême des États-Unis a invalidé les programmes d'action positive pour les minorités racisées dans leurs admissions universitaires, une décision qui a servi de catalyseur à de nombreuses administrations pour réviser leurs politiques internes de diversité. Et dans l'écope de l'information hier, bien, il y a 3 ans, Jeannick Grenier pensait réaliser son rêve en achetant une ressource intermédiaire, une RI, pour les personnes ayant une déficience intellectuelle, c'est à Granby, en Estrie. Peu de temps après avoir aménagé, elle a constaté que les problèmes avaient déjà commencé. Toute toiture à refaire, balcon qui tombe en miettes et fenêtre qui laisse passer le froid. Ce n'est pas sans regret qu'elle lance un cri du cœur. Madame Grenier reconnaît d'emblée, elle n'a pas fait inspecter la maison avant de l'acheter. On me disait, dit-elle, qu'il y avait des résidents et qu'il ne fallait pas les traumatiser, alors j'ai fait confiance. De plus, elle croyait que l'évaluation avait déjà été faite peu de temps avant. Et puisque c'est gouvernemental, ajoute-t-elle, je me disais qu'elle devait être droite, cette maison-là. On m'a dit qu'il n'y avait rien de dangereux pour les usagers. Cette résidence est le premier achat immobilier de Jeannick Grenier. Les 2 autres résidences dont elle est propriétaire, elle les avait fait construire. Elle a acheté ce type de maison que sa sœur, qui vit avec un handicap, pour qu'elle puisse vivre à ses côtés. « Ma sœur est comme mon enfant, jamais je ne vais m'en séparer », ajoute-t-elle. Mme Grenier, donc, qui n'est pas certaine de la procédure, a cru que c'était indiqué sur le contrat. « On m'avait dit qu'il y avait une fenêtre à changer, une. Finalement, j'ai dû toutes les changer. Je n'avais pas le choix. Il y avait de l'air qui rentrait. Mes escaliers sont à refaire, ils sont dangereux et tout est pourri sur ma galerie. Le ciment est brisé. Ensuite, je vais redresser le ciment. Je vais faire redresser le ciment, sinon ça va couler. Ça va faire comme une rivière, l'eau s'accumule. Et puis la toiture aussi est à refaire. » Alors, pourtant, on mentionnait dans le contrat de vente que le toit avait été refait récemment. Jeannick Grenier ajoute qu'il manque des poutres pour soutenir le plancher au sous-sol. Ça fait que le plancher est croche. Alors, c'est une situation qui place les résidents et leurs familles dans une position de grande vulnérabilité face au manque de ressources alternatives dans la région. Bien que des démarches aient été entamées auprès des instances gouvernementales pour obtenir du financement d'urgence, aucun plan de reconstruction n'est officiellement confirmé. Bien, on arrive à la fin de l'émission. Merci Mathieu Tessier pour la régie. Merci aussi à Hélène Denis qui sera de retour mardi. Moi, je reviens lundi. Je m'appelle Denis-Martin Chabot. Et puis, bien, demain à midi, c'est le retour de la série d'entrevues qui s'appelle Affirmation. Affirmation qui parle avec des personnalités de la diversité sexuelle et de genre. On reçoit Claudine Metcalf, une grande personne qu'on aura plaisir à découvrir. Merci tout le monde. À la semaine prochaine.